Allô, bonjour Daniel, bonjour hein, aux AMG et à l'équipe. Voilà, j'appelle parce que j'ai un fils qui va avoir 10 ans dans quelques jours et j'ai appris que Sarkozy voulait, à partir de la rentrée, lui mettre dans son cartable le cadavre d'un enfant juif supplicié, ce qui est déjà une horreur en soi. Et en plus, bon, il se trouve que bon, dans les ancêtres de mon fils qui ont vécu cette époque-là, pour partie des gens qui ont été prisonniers de guerre, des gens qui ont souffert de privation, un de ses arrière-grands-pères a été médaillé de la résistance, donc je vois pas en quoi on devrait le culpabiliser pour ce qui s'est passé à cette époque-là. Je pense que Sarkozy ferait bien mieux de s'adresser aux gens parmi son entourage qui sont soit marchands d'armes, soit issus d'une descendance de gens qui ont fait fortune à cette époque, ou encore de gens qui continuent à faire fortune maintenant en exploitant la misère et le travail des enfants un peu partout dans le monde. Bon, j'ai bien idée de l'endroit où ils pourraient se mettre ses leçons de morale, mais je voudrais pas être grossier. Voilà, salut, bonne journée à tous. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel, Bertrand à l'appareil, bien longtemps qu'on t'avait pas appelé. Alors cette fois-ci c'est pour réagir aux multiples propositions de Monsieur Sarkozy, dont la dernière est de faire porter à chaque enfant, jeune adolescent, la mémoire d'un jeune enfant juif mort dans les camps de concentration. Alors, je suis pas contre l'idée. Mais à ce moment-là, il faut que chaque enfant porte aussi la mémoire d'un jeune arménien mort dans aussi d'atroces souffrances, d'un jeune tchétchène, d'un jeune rwandais et de jeunes palestiniens aussi, puisque malheureusement la Palestine et Israël font mauvais ménage, et qu'à ce moment-là aussi, il y a extermination. Voilà, c'était, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, puisqu'on parle de porter la mémoire de peuples, eh bien, prenons tous les peuples qui ont souffert sur Terre et portons leur mémoire en nous. Voilà. Bon, salut Daniel, à une prochaine fois et continue.
Je ne sais pas où il a été élevé, Sarkozy, mais moi, perso, la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, le génocide des Juifs, on m'en a parlé du primaire au lycée, en passant par le collège, et même au-delà. Alors, s'il y a un effort à faire au niveau de notre mémoire, qu'on parle un peu de la guerre d'Algérie à l'école. Qu'on apprenne à nos enfants que nous ne sommes pas à l'abri de devenir nous-mêmes les bourreaux. Ça, c'est de l'éducation. Évidemment, c'est plus délicat, ça demande un peu plus de courage politique. Ou que sa majorité soit d'origine algérienne. Mais on ne se refait pas. Allez, merci et courage.
Ah, salut Daniel, c'est Marc d'Orléans. Je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy ait eu une bonne idée en voulant imposer le parrainage des enfants morts, des enfants de la Shoah morts pendant la guerre. Parce que déjà, ça peut être très choquant pour ses enfants, surtout en CM1. Et comme un enfant, c'est très curieux, ils voudront en savoir plus. Et quand ils apprendront que c'est la police française qui a envoyé ses enfants à la mort, ça risque d'être encore plus choquant pour eux. Et ça pourrait peut-être bien se retourner contre Nicolas Sarkozy. Surtout que c'est la même police française qui effectue de ce moment à Paris des rafles comme cette semaine dans le 13e arrondissement. Voilà, bah c'est tout. Allez, salut Daniel, bon courage.
Oui, bonjour à tous. Voilà, moi je suis bouleversée par la nouvelle invention de Sarkozy. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, la chose, l'homoncule, le machin qui a l'Élysée. À propos des enfants qui devraient supporter la mémoire des enfants morts. Alors voilà ce que je voudrais lui répondre, en lui citant un petit passage de Charlotte Delbout, déportée à Auschwitz et morte là-bas, résistante. Elle a écrit « Je vous en supplie, faites quelque chose, apprenez un pas de danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil, apprenez à marcher, et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Les enfants de 10-11 ans, c'est fait pour jouer au ballon, pour sauter sur une marelle, pour jouer à la corde à sauter, pour inventer des histoires, lire des contes. C'est pas fait pour porter la mémoire des enfants morts. Il faut laisser les morts enterrer les morts. Ça suffit, parce que c'est l'antisémitisme qui va renaître, c'est la merde qui nous attend, ça suffit. Il y en a 6 millions qui sont morts à cause de ça, stop, stop l'homoncule à la merde qui a l'Élysée, stop. Au revoir.
Bonjour, c'est pas pour une annonce, c'est pour un vote. Moi, je suis pour continuer là-bas, fait des petits, parce que je trouve ça bien sympathique. J'ai beaucoup aimé celui sur l'accouchement. Voilà, ça m'a fait revivre des émotions. Et donc, je pense que vous pouvez continuer sans problème. Moi, ça m'ira. C'était Sarah. Salut.
Alors d'accord, on continue aujourd'hui avec les étudiants de l'école de journalisme de Lille, puisque vous le demandez. Hier, je vous avais proposé de nous dire stop ou encore. Eh bien, vous avez été nombreux, nombreuses. Ça, c'est marrant d'ailleurs. Beaucoup d'auditrices, parce qu'il y a eu un reportage hier sur un accouchement. Alors, beaucoup d'auditrices ont été émues, vous allez les entendre. Et donc, la plupart d'entre vous, enfin, beaucoup de messages nous disent « Oui, oui, on en veut encore, on en veut encore ». Donc, aujourd'hui, on va passer cette heure à nouveau avec des reportages faits dans le cadre d'un stage que nous avons dirigé, mon camarade Antoine Chao et moi-même, avec les étudiants en journalisme radio de l'école de journalisme de Lille. Beaucoup, beaucoup de messages aujourd'hui dans la base J'y suis, et vous avez entendu tous ces messages indignés, de colère, qui expriment le moins qu'on puisse dire un malaise face au projet de parrainage d'enfants de la Shoah imaginée, sortie de l'imagination du président de la République. C'est peu de dire qu'il y a contestation, c'est peu de dire qu'il y a malaise, et vous allez entendre ces réactions furieuses. Encore, je pense d'ailleurs que ceux qui étaient à l'écoute ce matin de Régis Debray dans le 8-9 de France Inter ont eu des informations et des analyses particulièrement pertinentes. Donc aujourd'hui, on va à Lille retrouver nos étudiants. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, juste au 01 56 40 37 37.
Camarade président de Carolis, es-tu en grève aujourd'hui? Ah non, tu n'es pas en grève. Tu es d'accord avec Sarko car tu veux sauver ta peau. Ah.
Je pensais que ça n'arriverait jamais pas malgré qu'on règne. Eh bien si, c'est arrivé. Ce mercredi 13 février, un jour sans Sarkozy. Bravo France Inter. Que ça fait du bien. Et surtout, ne vous gênez pas pour récidiver.
Oui, bonjour mon petit Daniel. Je t'appelle au sujet de la redevance. Il y a tes copains qui voudraient augmenter la redevance comme en Allemagne ou comme en Angleterre. On s'en fout ce qu'ils font dans ces pays-là. Il ne faut pas l'augmenter, mon coco. Déjà, on a plus de gros problèmes financiers. On n'arrive plus. On vient de debout. Daniel, quand même. Dis-leur aux copains qu'on laisse la pub. La pub, c'est chiant. J'avoue, c'est énervant. Quand ça coupe un film ou ça coupe un programme. Mais quand c'est entre deux programmes, passe encore. Ça laisse le temps d'aller faire pipi, débarrasser la table. Non, mais Daniel, dis à tes potes de se revoir leur copie, quoi. Non, laissons la pub telle que c'est actuellement et n'augmentons pas leur devance. On n'y arrive plus, mon dit Daniel. On n'y arrive plus à joindre les debout. On n'y arrive plus entre les loyers qui sont hyper chers, l'électricité, le gaz, l'essence. On n'y arrive plus. On n'est pas comme Total, on fait pas 15 milliards de bénéfices par an, nous on s'augmente pas notre salaire de 120%, nous on n'arrive pas à faire tout ça, mon petit Daniel, on n'est pas comme les patrons du 440. Bon, mon petit Daniel, tu vois tes copains, là tu leur dis, hein, t'es bien sympa, la télévision publique, la radio publique, on l'adore, on aime bien, mais de là, s'il faut payer trop cher, 200 euros, non ça va pas. Alors ton copain il demande 90 euros d'augmentation, non. Alors j'espère Daniel, tu vas le voir, et puis je vais dire de ne pas faire augmenter la redevance. Hein. Excuse-moi pour les bégayements, je prends les médicaments en ce moment. C'est que stress, justement, toi, donc, pour les problèmes d'argent. Alors, si en plus tu en rajoutes, non, ça va pas, mon petit Daniel.
Oui, bonjour, c'est Pierre de Lyon. Bon, vous êtes en grève aujourd'hui à France Inter, sur France Culture, pour sauver le service public, qui risque d'être asphyxié par la suppression de la pub. Alors, je suis anti-pub, mais alors totalement anti-pub. Vous aussi, je suppose, mais enfin, c'est la pub qui fait vivre. Peut-être pas totalement France Inter, mais du moins les chaînes de télévision. Mais très sincèrement, pourquoi sauver ces chaînes soi-disant publiques? Il y a autant de publicité sur la 1, sur la 2, la 3 que sur la 1. Quant aux émissions, c'est la même chose. un service public où c'est une femme de ministre qui organise des débats politiques, ça fait sourire. Ouais, moi, je ne vois pas du tout l'utilité, finalement, de ce service public, à mon grand regret. À mon grand regret, je précise, parce que j'aimerais bien un service public qui soit public. Mais là, c'est aussi gouvernemental que TF1 ou les autres, hein. Voilà, c'est ce que je pense, tout simplement. J'ai certainement pas raison, mais je suis pas un spécialiste, mais je vois vraiment pas la différence entre France 1, France 2, France 3. Si, Arte, mais un peu différent quand même. Bon, allez, ça sert à rien de râler, ils feront bien comme ils voudront. Allez, ciao. Pierre de Lyon.
Ouais, cette semaine, on était en grève. Beaucoup de messages sur cette grève, des messages d'encouragement, mais aussi des messages qui s'étonnent un petit peu du projet d'augmentation de la redevance. Pourquoi est-ce qu'on augmenterait la redevance? Ben, la réponse, elle est toute simple. Pour permettre à l'audiovisuel public de se débarrasser de la publicité. Mais à la condition, bien évidemment, que la redevance soit revue, devienne un impôt démocratique, c'est-à-dire indexé sur les revenus, comme l'impôt sur les revenus. Certains ne payent pas, sinon ils ont des revenus faibles, et puis ceux qui ont des revenus élevés, ben, payent des sommes plus importantes. Effectivement, c'est une des voies qui est proposée. Mais cela dit, l'autre message dit bien qu'il n'est pas toujours facile de défendre l'audiovisuel public face à certains abus, certains excès et certaines médiocrités, mais on pourrait être à ce moment-là plus exigeant. Peut-être faudrait-il des représentations d'ailleurs des auditeurs et des téléspectateurs dans les instances de décision. Ça s'est fait dans le passé en matière de radio, et peut-être aussi que les personnels pourraient être associés à la désignation des présidents et des directions de ces chaînes. Ça pourrait tout à fait être quelque chose d'envisagé, c'est-à-dire en somme, sur tous ces points-là, un peu plus de démocratie. On continue avec les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis. Quelques nouvelles du front.
Bonjour là-bas, si j'y suis. Ce matin, en me rendant à mon lieu de labeur, dans le bus, je vis toute une foule qui, à 7h de la matinée, a pour habitude de grouiller dans les rues de cette ville. Eh bien, elle était entassée dans les cafés, fixant avec attention la télévision, comme si quelque chose d'historique était en train de se produire. En effet, ici, le 13 février 2008, l'Australie vivait un jour historique. Car, par le biais de son premier ministre Kevin Rudd, le gouvernement travailliste, fraîchement élu du mois de novembre, présenter ses excuses solennelles au peuple aborigène pour des siècles d'oppression, de déportation et d'humiliation diverses. Il a fallu attendre autant de temps pour qu'un gouvernement reconnaisse avoir été complice par le passé de ces atrocités. C'est un combat remporté par un peuple fier, et j'en suis très heureux. Et comme tu aimes à le répéter, Daniel, on ne perd pas toujours. Merci d'avoir une pensée pour ce peuple qui, même aujourd'hui, éprouve les plus grandes difficultés à survivre et se relever des ravages du passé. Encore merci là-bas si j'y suis, le RTC, Ketchup Sous-Marin, là-bas.eu. Au revoir, c'était Marc de Ciné.
Plus 40%, c'est normal, c'est archi normal, insiste la dame à la télé. Ok, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'aujourd'hui les porcs sont assez gras, qu'il faudrait peut-être arrêter de les engraisser. Et songez à faire le boudin et la saucisse avant que les pauvres ne meurent complètement de faim. C'était Jean-Pierre de Bordeaux.
Oui, bonjour, Mathieu de Toulouse. Voilà, j'entendais récemment Jack Lang qui proposait de prendre à Ayaan Hirsi Ali sur les listes du PS. Et elle y aurait peut-être sa place vu qu'elle vit aux États-Unis et d'après un reportage que j'ai entendu sur France Inter, elle travaille pour un think tank, enfin je sais pas comment on prononce quoi, enfin une boîte à idées ultra conservatrice américaine. Voilà, donc peut-être qu'elle défend les femmes musulmanes, mais voilà quoi, elle a les idées bien orientées et espérons qu'elle participera avec beaucoup d'ardeur et une foi profonde à la refondation du PS pour en faire un parti novateur, plein de belles idées et apte à gérer la France en bon père de famille. Voilà, au revoir.
Oui, bonjour. Les salariés de l'imprimerie nationale à Choisy-le-Roi sont toujours en grève. On termine notre quatrième semaine de grève avec occupation des locaux. Ça serait bien si on pouvait en dire un petit mot sur l'émission de France Inter. Salut, merci.
Auditeurs modestes et géniaux de Nantes et des environs, nous vous donnons rendez-vous vendredi 15 février au bar Le Méliès à partir de 19h. Nous parlerons de maintien d'une agriculture paysanne avec Gwendal Revault et d'élections municipales, cantonales et des choix qui restent aux électeurs nantais suite au vote du Parlement concernant le traité de Lisbonne. Deux sujets sans rapport apparent l'un avec l'autre pour une même soirée, c'est deux fois plus de raisons de se retrouver au repère. Alors venez nombreux, vendredi 15 février, au bar Le Méliès, à partir de 19h. C'était James.
Oui, bonjour à tous les AMG et bonjour à vous France Inter. C'est Cédric de Lorraine. Je voulais juste vous signaler que nous avons eu une grève, un débrayage qui était sur tout le groupe Renault. Tout en France, et je voulais juste vous donner des nouvelles. Nous avons été quand même 3000 travailleurs sur le groupe Renault, qui en contient, je crois, 10 000. Donc un tiers des travailleurs pour avoir une augmentation décente. Donc c'était juste pour vous dire que nous comprenons très très bien chez Renault votre situation. Alors les gars, continuez, parce que sans vous, on ne sera plus là, nous, les défenseurs de la démocratie. Et merci pour tes émissions, Daniel.
Cher Labachi des Suisses, cher Pascal Ascariello, j'appelle pour vous dire que les avions de Dassault et les satellites de Dassault ne pourront rien contre les bonnes questions et contre les empêcheurs de tourner en rond. C'est bon de savoir qu'il est plus difficile finalement de dénoncer le grand capital que les frasques de monsieur et madame le président. C'est beaucoup plus dur de taper dans les avions et les tanks que dans le petit président. Bonne soirée.
Il est encore trop tôt pour le penser ou pour le dire, mais un jour on dira que Deleuze est l'égal d'un Spinoza ou d'un Shakespeare. Mais là, il est trop tôt pour le dire ou le penser, alors je ne le dis pas. Mais un jour, c'est dommage parce que ça sera peut-être trop tard ou trop loin. Si on avait su lire ce qu'il vient de dire, peut-être qu'on aurait beaucoup plus de réponses qu'on ne le pense. Parce qu'il y en a des réponses. Et puis c'est pas des petites réponses. C'est vraiment des réponses fabuleuses. Ah, ils sont pas légion, les mecs qui pensent comme lui. Et pourquoi ils pensaient comme ça, Deleuze ? Parce que c'était un mec malade. Il y avait une partie de son corps qui était atrophiée. Ça veut dire qu'il y avait un manque. On ne réfléchit pas de la même façon quand on a un manque comme celui-ci. On ne peut pas réfléchir comme la pensée communément admise. C'est peut-être pour ça que Deleuze est extrêmement important, beaucoup plus qu'on le pense et qu'on n'est pas prêt de le penser. Mais c'est bien dommage de ne pas pouvoir se permettre de le penser ou de se permettre de le dire. Non, vraiment, je pense qu'un jour Deleuze sera immense. Immense. Immense.
Mais l'hommage à Gilles Deleuze est penseur du manque ou qui pense à cause du manque. Et je suis celui qui vit un manque, disait une chanson de Pierre Barou. Je suis celui qui vit un manque de Force 5 à Viking Bang. Je me souviens de cette parole de cette chanson. Encore quelques messages et puis on fonce à Lille.
Oui, bonjour. Je voulais réagir au reportage sur l'accouchement hôpital des Bleuets, enfin la clinique des Bleuets. Il se trouve que j'habite le quartier, d'ailleurs, c'est dans le 11e, pas dans le 12e, mais c'est pas le sujet. Ce qui est amusant, c'est que la dame a dit « je vais accoucher là parce que moi, je vais pas accoucher comme occidentale ». Et ce qui est quand même marrant, c'est que dans le même quartier, il y a l'hôpital Tenon. Et moi, c'est là que j'ai accouché. Et il se trouve que j'ai des enfants blonds et la première fois que j'ai accouché là-bas, j'en suis pas revenue quand j'ai vu la pépinière. Il était le seul blond au milieu des petits bruns, des petits noirs, des petits enfants de toute origine et sûrement pas occidentales justement, asiatiques, africains, etc. Et que tous les enfants d'immigrés, eh bien, ils naissent à l'hôpital de nom, plus des femmes dans mon genre qui vont à l'hôpital par principe, quoi. Et puis les autres femmes, eh ben, les occidentales justement, elles vont en bleuet. Voilà. Et c'est encore une histoire de classe, à mon avis. Voilà, c'était Françoise de Paris.
Oui, bonjour monsieur, j'écoute à l'instant votre émission sur l'école des journalistes de Lille. Monsieur Mermet loue le service public qu'il veut défendre. Je trouve qu'il donne un bien mauvais exemple par sa pratique personnelle. il n'est pas du tout objectif. Dans un sujet, il y a toujours deux points de vue. Les siens sont traités de façon tout à fait unilatérale. Ils n'ont pas un très bon journaliste. Et je trouve curieux qu'ils viennent aujourd'hui donner des leçons aux jeunes étudiants en journalisme de Lille. J'espère que ceux-ci ne suivront pas ces traces. Ça n'est en tout cas pas une bonne défense du service public qui l'illustre. À bientôt. Au revoir.
Vraiment, merci beaucoup, Daniel et tous les jeunes. L'accouchement, c'était génial. J'en ai les larmes aux yeux. Je suis infirmière à la retraite, vraiment. Merci mille fois. Continue. Bon courage à tous. Au revoir.
Ouais, allô ? Allô ? Je suis bien à la Mermet Academy, la Starac du reportage. Alors, pour sauver Julie, tapez 1. Pour sauver Charlotte, tapez 2. Pour sauver Tiffen, tapez 3. Et pour sauver l'audiovisuel public, tapez PUB. Allez, ciao. Bruno Parigi, encore bravo, t'es trop fort. Allez, ciao.
Il y a un petit souci. Il y a un truc rouge qui s'allume.
Bah oui, c'est le règle.
Oui, mais je crois que la carte A est prise et il veut pas me prendre la B.
Bah tu sors la.
Ah non, si c'est bon, il prend la B là.
Éteins,
c'est
bon. Ouais, t'es en train de tourner sur la B.
Je tourne sur la B, on est d'accord.
Tu tournes pas là.
Si, regarde.
C'est bon, vas-y.
On sent l'explosif, hein.
On sent, hein.
Ouais.
Alors, c'est pareil, ça. Quand on sent ça, faut pas y rester très très longtemps. Ouais. Parce que ça finit par nous donner des maux de tête. C'est pas bien, quoi. Faut pas rester là-dedans. Donc, on va aller voir. Alors, ça commence à monter un petit peu. C'est bon.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao et les étudiants de l'école de journalisme de Lille. Là-bas, fait des petits.
Flight number 2, arriving from New
York. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Bonjour madame. Je vous sers la main.
Oui.
Madame Le Pen.
Oui.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'aller faire le marché?
C'est ma petite bouffée d'oxygène. Non, c'est très important parce que ça nous permet évidemment de pouvoir discuter avec les gens, de savoir quelles sont leurs attentes, de voir si les préoccupations que nous exprimons pour eux sont réellement adaptées à ce qu'ils attendent de nous. Je crois que le contact humain est fondamental en politique et trop souvent, nos responsables, nos dirigeants l'oublient.
Et alors, vous en avez fait beaucoup déjà des marchés et dans Beaumont ?
Oh oui, j'en ai fait beaucoup. Bah, vous allez voir, d'ailleurs, tous les commerçants me connaissent. Ce qui est la meilleure des démonstrations, d'ailleurs.
Ce matin, le de la collection, j'ai bien dit. La tourneuse rechargeable, le coffret s'ouvrant, le rasoir épilateur pour la dame, la montre homme et la montre dame. 20 euros et 5.
Alors bienvenue à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Cette ancienne ville minière est encore entourée de ses terrils et aujourd'hui elle compte 26 000 habitants, dont environ 20 000 électeurs. Des électeurs qui sont sollicités par les candidats à la mairie pendant qu'ils font leur marché, tous les mardis et vendredis.
Il n'y a que 3 chiens. Donc après, comment je vais faire? Ça va faire des bagarres. Non, je préfère 3. Il y a 2 Doberman et un Labrador. À combien je vous dois?
Alors ça ne fera que... 6.
Ah, j'aime bien quand vous dites que.
Merci. Que 6.
Alors qu'est-ce que vous avez acheté là?
J'ai acheté des os pour mes chiens. Enfin, voilà.
Et vous faites
pour
souvent...
les chiens de mon père en fait. Oui, parce qu'ils aboient, c'est extrêmement pénible. Alors quand je leur donne la noce, ils aboient plus.
Voilà. Et madame, alors une petite couette à 2 euros comme ça là.
Allez, tomates 1 euro là, 1 euro les tomates, allez, 2 salades 1 euro.
1,50 en market.
Je m'appelle Marie Guibal et je suis étudiante dans la 82e promo de l'ESJ à Lille.
Je m'appelle Audrey Tison et je suis aussi la 82e promo de l'école du journalisme de Lille. Et en fait, on est l'équipe de la SP Radio, spécialité radio.
Moi, c'est Michel et j'ai travaillé sur un mouvement anti-pub.
Moi, c'est Laurie, j'ai travaillé sur les quotas de pêche. C'était bien, mais j'étais complètement malade.
Oui, moi, c'est Aurélie Hermemont et donc j'ai suivi les 3 listes principales en compétition pour les municipales à Hénin-Beaumont.
Moi, c'est Tiffaine, j'ai suivi une prof de français dans un lycée professionnel à Lille.
Moi, je m'appelle Alix et j'ai fait une journée avec les carnavaleux de Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque.
Alors,
je sais tout sur le rituel du carnaval, de la préparation aux chapelles.
Enfin, moi, c'est Julie et j'ai approfondi mes connaissances sur le premier baiser.
Donc moi c'est Frédéric et j'ai travaillé sur les mines d'ardoise de Trélazé à côté d'Angers.
Moi c'est Tony et je suis allé passer une après-midi entière dans une maison de retraite avec les petits vieux.
Émilie, j'ai passé 3 après-midi dans une association qui accueille les personnes atteintes d'Alzheimer.
Moi c'est Charlotte et j'ai travaillé sur les monts de piété qui s'appellent aujourd'hui Crédits Municipaux. C'est ces endroits où on dépose des objets de valeur et on reçoit du liquide en échange. Et puis il manque Sarah aussi qui a travaillé sur les rangs.
Moi je m'appelle Ava et j'ai travaillé sur les gros mots.
La première fille qu'on a prise dans ses bras, on s'en souvient. On s'en souviendra toute la vie, la première fille qu'on a prise dans ses bras. Mais il y a d'autres choses dont on se souvient et dont on se souviendra toute la vie. Et pour les gens de radio, c'est la première minute de radio. La première minute où l'on s'est entendu à la radio. La radio, c'est-à-dire Radio France, bien évidemment. Et la première chose qu'on a faite, le premier reportage, le premier... Moi, je me souviens du premier conte que j'ai raconté il y a bien, bien longtemps sur France Culture. Et de cette première minute, je l'ai encore présente à l'esprit. Alors, à l'instant, je pense à ces étudiants de l'école de Lille qui sont à l'écoute, j'en suis sûr, et qui se disent, est-ce que mon sujet va passer? Ils en ont déjà passé d'un tel, une telle, machin, etc. Est-ce que mon sujet va passer? Il nous reste assez peu de temps. On passera sans doute pas tous les sujets. Certains sont passés. On va en passer un en particulier qu'on a particulièrement aimé avec Antoine Chaot. C'est un sujet de Michel, elle s'appelle Michel. Elle est étudiante, comme les autres, en deuxième année donc de cette école de Lille. Ils ont choisi, ce sont les étudiants qui ont choisi la spécialité radio. Et je le rappelle, cette école nous a demandé avec Antoine de venir diriger un stage de reportage documentaire, c'est-à-dire des reportages en longueur. La durée était de 20 minutes environ, à quelques minutes près. Donc c'est une forme d'expression, de rythme, de couleur, sonore. Il faut trouver, puis avec évidemment toutes les stratégies habituelles du journalisme, mais là dans la version sonore, qui est une façon de mode d'expression que Radio France a réussi à défendre et à porter, comme vous le savez, comme vos oreilles au moins le savent. Voilà donc le sujet de Michel Antipub.
Défense d'affichée de Michel Colombel.
Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. Voulez-vous monter? Confortablement installé? Alors, allons-y.
Là, je vais repérer le panneau qu'on va barbouiller.
Un très gros là-bas, mais
là-bas.
Sais celle-ci là.
Ah ah, dévoiler votre côté survolté. Ouais, voilà, donc grâce à la nouvelle voiture Dodge, on est révolté, un peu rebelle, survolté, je sais pas. Ouais, voilà, on est une rockstar rebelle, c'est ça que nous dit la pub. On a une grande échelle. Ah, il est quand même très très haut. Ouais, non mais ça va aller. Hein. Et en plus c'est très visible, c'est un fond rouge très très beau, donc on va barbouiller ça. Donc on a choisi la couleur, tout ça.
Et vous savez déjà ce que vous allez écrire dessus là?
Oui, on a des petites idées, on va... Ouais, si, on sait ce qu'on va mettre. Mais ça, c'est une petite surprise, quand même.
Je m'appelle Alessandro Giuseppe, je fais partie, entre autres, du collectif des déboulonneurs de Lille. Nous entamons chaque mois des actions non-violentes, des actions de désobéissance civile, donc de manière assumée, devant un public et sans se cacher, nous barbouillons des panneaux publicitaires, des 4x3, ou des plus petits, pour dénoncer la privatisation de l'espace public.
Il y a quoi de l'autre côté?
Il y a McDo, Midas, et puis une banque, comme là-bas aussi. Et celui-là, il est bien visible.
Ah, Alain, il est quelle heure?
Là, j'ai 6 heures.
C'est Monique, toi tu joues les cartes
3.
Mégaphone! Merci.
On va essayer.
Ça marche.
Ouais, voilà. Merveilleux.
La désobéissance civile est le droit imprescriptible de tout citoyen. Il ne saurait y renoncer sans cesser d'être un homme. Voilà, c'est Gandhi qui le dit, et on est tout à fait d'accord. En fait, on considère que tous les recours ont été utilisés et donc que l'ultime recours, c'est la désobéissance civile et qui est de fait légitime. Quand on ne peut plus se faire entendre, quand c'est le seul moyen, eh bien, il ne faut pas hésiter à entrer en désobéissance civile. Et notre but, c'est d'abord de nous faire arrêter, mais pas pour se faire arrêter, c'est parce qu'il y a un but, c'est d'avoir un procès pour obtenir un large débat public qui n'existe pas actuellement et essayer éventuellement de changer la loi pour réduire le format des panneaux publicitaires à un format beaucoup plus petit qui est celui de 50 x 70 cm, qui est celui de l'affichage associatif et politique à Paris, par exemple.
Bonsoir. Bienvenue à la deuxième action des Dés pour l'honneur. Donc ça fait un an et demi qu'on agit. Donc alors ce qui va se passer, c'est que Alessandro là-bas va barbouiller des panneaux publicitaires. Donc juste quelque chose, si la police vient, il faut l'accueillir gentiment avec un grand bonsoir. Bon, on n'est pas obligé de se prosterner non plus. Mais surtout pas de violence parce que ça pourrait nuire aux fauteurs et à nous collectivement. Donc voilà, bah, tu peux commencer.
Le collectif des déboulonneurs, pourquoi ça s'appelle les déboulonneurs ? On veut pas déboulonner au sens propre la publicité, enfin les panneaux publicitaires en tout cas. On voudrait faire tomber la publicité de son piédestal. On s'attaque à la forme de publicité qui est la plus visible et la plus imposée à tout le monde. C'est-à-dire que les panneaux publicitaires, on ne peut pas les éviter. La publicité à la télé ou dans les magazines ou ailleurs, éventuellement, c'est dur, mais on peut ne pas la voir. La publicité dans la rue, on nous l'impose. Et c'est foncièrement antidémocratique, ça.
Ça marche.
Alors, actuellement, Alessandro est en train de barbouiller un panneau de 2 mètres carrés.
Alors là, qu'est-ce que tu écris ?
Ah, alors moi,
je pense que égale pollution visuelle.
L'affichage publicitaire est clairement le moyen de communication le plus prégnant. On ne peut pas y échapper. C'est le dernier contact avec la cible une demi-heure avant l'acte d'achat. Donc voilà, avec les panneaux publicitaires, on a 92% de réussite de vous faire acheter. C'est génial, hein ?
Voilà, le premier panneau est terminé, donc vous allez aller au...
Ouais, on va aller au prochain, ouais. Mais c'est vrai qu'on peut... Pour l'instant, on a notre temps, puisque bon, il n'y a personne, il n'y a pas les forces de l'ordre. Voilà, on les attend, sereinement.
Je m'appelle Lata Delino, mais... Je pense juste qu'il y avait mieux à faire, quoi. C'est tout. Il y a des choses plus importantes qu'un panneau publicitaire. Il y a des choses qui polluent certainement plus que ça et qui nous empêchent de respirer certainement plus que ça. C'est de la peinture gâchée à rien. Justement, ils disent que ça pollue. Ben, la peinture qu'ils ont mis, elle pollue aussi.
Moi, je trouve qu'il faut essayer au moins délimiter certaines publicités. Parce que moi, avec ma situation de famille et actuellement avec ma femme, j'évite, franchement, de sortir avec ma femme pour pas qu'elle voit surtout des publicités. Parce que je sais que chaque fois qu'elle voit quelque chose qui lui plaît, ben voilà, achète-moi ça. Et c'est ça que, d'un côté, je pourrais pas.
Et toi, t'aimes bien la publicité ?
Ouais. Non, pas trop, parce qu'ils disent des trucs que c'est pas vrai. Et en fait, et dès que je regarde un film, après ça coupe.
Et là, tu trouves ça bien, ce qu'ils font ?
Non.
Pourquoi ?
Ça se fait pas, regarde ce qu'ils font, là. Après, les gens, ils vont venir, ils vont nettoyer.
Ouais ! On chante ? Ah oui, j'avais carrément oublié, mais c'est vrai, un petit peu de chant. Alors moi je sais pas chanter, mais je suis sûre qu'il y a des chanteurs du public fort. Non, c'est quoi, c'est le barbouilleur, voilà. De Vorigien, on a retravaillé les paroles.
Allez, frappez dans vos mains.
Si je suis prisonnier, c'est bien du matraquage, de toutes ces images qui me font consommer. Je dois fermer les yeux et aussi les oreilles à ces fausses merveilles qui me rendent envieux. Au nom de la beauté, contre le racolage, vive le sabotage pour notre liberté. Face à ces mille annonces, sachez-vous les gendarmes, que j'aurai pour seule arme légitime réponse.
Bravo. Bravo, bravo. Alors, on va en profiter pour applaudir Alès, notre barbouilleur du jour.
Bravo Alès.
Bravo Alès.
Bravo.
Pour quelques minutes encore, je me prénomme Octave. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche. Bonheur parfait retouché sur Photoshop. Vous croyez que j'embellis le monde ? Perdu. Je le bousille. Donc voilà, je me prénomme Octave. Octave Parango. J'ai passé ma vie à vous manipuler. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.
Les publicitaires à la base, leur métier, c'est de créer des besoins. Toujours plus. Toujours. Essayer de faire croire aux gens qu'ils n'ont pas la dernière nouveauté, qu'ils n'ont pas le dernier objet, dernière voiture, et qu'il a leur foi absolument. Et puis faire croire à une autre réalité qui n'existe pas.
C'est quoi cette autre réalité ?
Les publicitaires essaient de nous vendre un monde idéal, un monde où tout le monde est très beau, où tout le monde est riche, et personne n'a de soucis. Et là, dans la réalité, toutes les femmes ne sont pas très très minces, et parfaite. Tous les hommes ne sont pas musclés et parfaits. Tout le monde n'est pas heureux quand on s'achète le dernier objet high-tech. Et on entend souvent le discours, mais on nous prend vraiment pour des cons. C'est Coluche qui avait dit ça déjà il y a 20 ans, quand il disait on essaie de nous vendre une lessive qui lave plus blanc que blanc. Et il disait, qu'est-ce que c'est plus blanc que blanc ? Je sais pas, gris clair. Mais c'est tout à fait ça. C'est prendre les gens pour des imbéciles, ça. Le problème, c'est que la publicité séduit encore parce qu'on la juge inoffensive. On pense que, parce qu'elle divertit, parce que le spot est marrant, on pense que ça n'a pas d'effet. La publicité n'a jamais d'effet sur nous. On dit, quand on questionne les gens, ils vont vous dire « Oui, mais moi, je ne regarde pas l'affichage publicitaire. À la télé, je ne regarde pas. Moi, ça ne me touche pas. Ce n'est pas comme, c'est pas à cause de la pub que je consomme. » Et c'est totalement faux. C'est totalement faux. Pendant mon enfance, j'arrivais à citer les publicités, comme tous les enfants. Et c'est là où on se rend compte de l'invasion publicitaire dans nos esprits, dans nos cerveaux.
Non mais je pense que de toute façon, la police s'occupe des sans-papiers, hein, donc on va peut-être aller les soutenir tout simplement.
D'accord.
Ouais.
Allez, on remonte la rue de poste et on y est.
Vive la République.
Attends, on va attendre un peu. Ils passent, ils font rien, on est 25. Ils regardent. Là, il y a une voiture de police qui est passée tranquillement, au pas. Ils ont bien regardé, puis ils sont passés. Alors, à moins qu'elles reviennent, mais...
Bonjour.
Alex,
bonjour.
Est là.
Bonjour.
C'est qui l'auteur de ce crime?
Monsieur Alessandro Di Giuseppe.
C'est moi.
Donc, récapitulons, vous faites partie du collectif
Des déboulonneurs de Lille.
Déboulonneurs. En fait, c'est le déboulonnage consiste à une inscription politique sur un panneau publicitaire pour inciter déjà les gens à réfléchir et l'objectif est de se faire arrêter et pour avoir un procès, pour avoir
un débat public.
Et l'objectif est de changer la loi en fait parce qu'on trouve que les panneaux publicitaires sont trop grands. En plus, le panneau, je pense qu'il est illégal.
Vous avez déjà été interpellé?
Il y a déjà eu une arrestation.
Ouais, pas moi.
Et il n'y a pas eu de procès.
Donc vous voulez en prison? En prison?
Ça risque qu'on aurait bien avoir...
En justice, si vous.
En justice, ouais. Plutôt.
Donc la bombe, la peinture, vous l'avez encore?
Ah non, oui.
Vous l'avez sur vous?
C'est l'objet du délit.
Vous l'avez voulu?
L'arme du crime. Bon, je vais me renseigner, voir si on peut vous trouver une chambre
tout
confort.
Allez, un petit coup de téléphone.
Un petit coup de téléphone, voilà, comme vous dites.
Là, le climat, il a l'air très détendu, finalement, avec la police.
À partir du moment où on explique qu'on assume notre acte, tout de suite, ça détend l'atmosphère. C'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est être interpellé pour, après, obtenir un procès.
Et là, vous le sentez bien ?
Ah oui.
Ok, on y va.
Bon, on va vous accompagner, alors.
Vous connaissez...
C'est quoi, c'est le central ou quoi?
C'est encore l'ancien central. Il y a quelqu'un qui peut s'occuper du vélo et l'escabeau, l'échelle, il y a quelqu'un qui la récupère?
Non, c'est bon.
La bombe, par contre, ça aurait été bien que je la récupère. La bombe, elle est où, la bombe?
Au commissariat.
Vous pouvez venir.
Là, vous l'accompagnez au commissariat pour le soutenir, en fait.
Pour le soutenir, exactement.
Bravo, Alès! Super! À tout de suite, Alès, hein.
Une belle plaidoirie au procès.
Bravo.
Enfin, la police fait son travail, c'est bien.
Bravo la police.
Au volant d'une 4 chevaux, on est tout de suite à son aise. Il n'y a pas un monde de voiture plus féminine, plus facile à conduire. C'est aussi la voiture de l'homme d'affaires qui n'a pas de temps à perdre. Quel démarrage!
C'est pas moi qui ai inventé la phrase métro, boulot, dodo. Moi, j'ajouterais métro, boulot, conso, dodo. Pour les publicitaires, nous sommes des cibles. Et les publicitaires mènent des campagnes publicitaires pour viser des cibles. C'est un langage tout militaire. Je parlais de l'armée. Il faut savoir que le budget mondial des dépenses publicitaires a atteint 1200 milliards d'euros. Et c'est le premier budget devant l'armée. Premier budget mondial.
Et donc là, on est devant le commissariat. Ça fait longtemps que vous attendez ?
J'ai pas regardé l'heure. Je pense que ça fait une petite demi-heure.
Ouais, une petite demi-heure. Ouais.
Mais vous attendez Alessandro.
Et on attend Alessandro. Ouais.
Qui est dans les couloirs ou pas ?
Ouais, pour le moment. Il est vraiment pas loin de la porte de sortie. Hein. Il y a un agent de police juste à côté de lui. Et il patiente.
D'accord.
Enfin, on va reprendre.
Ça m'étonnerait qu'il y ait un procès.
Donc les flics, ils étaient sympas quand même. Vous avez rendu compte, quoi. Donc on a parlé de la pub, de notre combat, tout ça. Ils étaient super curieux. Il y en a qui a dit, celui qui conduisait, qui dit, ouais, c'est vrai, c'est de la pollution. Il disait, il y a des endroits, tu sors de la ville, c'est un massacre. Enfin, il y a trop de pubs, etc. Et il se redisait la phrase penser égale dépenser, tout ça. Et c'était vraiment bien, quoi.
Donc là, il y aura un procès, il n'y aura pas de procès.
Oui. La fois dernière, il n'y en a pas eu.
Je dis que des conneries.
Mais après, ça dépend du procureur.
Allez, on bouge.
On espère.
Homme dame réclame, promo à gogo. Bien étudié pour séduire le glo-glo. Le faire flasher qu'il se dise aussitôt. Acheter, il le faut. Au carrefour de l'exploitation, s'agite le bon chef de rayon. Qui met tout son cœur, ne compte pas ses heures. Gagner un leader, toujours le meilleur.
C'était Défense d'afficher, un documentaire de Michel Colombel, tourné à Lille en janvier 2008. Merci à Alessandro Di Giuseppe et à tous les déboulonneurs de Lille.
Rien de trop beau ni trop cher. Tu finis même par être fier d'être un espace publicitaire. Passing, forcing, stratégie, marketing, briefing, timing, séance de brainstorming. Be incisif, agressif, le chiffre, voilà l'objectif. On analyse toute manie, on anticipe toutes les envies. Tu deviens la cible du produit, mais je consomme, et donc je suis. Merde.
Vous avez des réflexions à faire sur celle-là, des observations, des questions?
Tu les as pas mis en face avec leurs contradictions. Ils sont conscients que leur combat, c'est peut-être pas le plus important. Là, on dirait un peu que tu leur sers une belle tribune, mine de rien, quoi. Enfin,
quand tu dis leurs contradictions, c'est-à-dire?
Enfin, les limites de leur action, plutôt. Les critiques dont ils font l'objet, tu les as pas renvoyées, tu leur as pas demandé de réagir.
Ce qui est drôle aussi, c'est que donc eux, ils ont pas de marque, ils achètent rien, ils vont. Enfin, tu vois, c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Alix, un peu, il aurait peut-être fallu plus les titiller en disant alors donc vous y êtes complètement insensible, vous n'achetez jamais ces trucs-là. On est tous consommateurs, eux certainement aussi.
Ils sont pas si contradictoires que ça, parce que par exemple à Alessandro, enfin, il m'a beaucoup parlé aussi de la décroissance. Ces deux mouvements qui sont très liés. Et donc lui, il est dans la décroissance à fond, c'est-à-dire qu'il a choisi de vivre comme ça. Donc après, c'est tout à fait discutable, d'accord, mais bon, lui, au moins, est cohérent avec lui-même, quoi. Voilà.
Non, parce que, d'abord, le reportage est très très bien fait, parce qu'on a tout le déroulement, t'as toute la chronologie, tous les personnages, toutes les clés, toutes les articulations, on les a, on suit ça, on attend ce qui va se passer. Non, mais c'est bien foutu, toi, ta dramaturgie est impeccable. Alors effectivement, il y a des questions là qui sont posées. Quelle est l'ampleur de ce mouvement? Ça, on ne le sait pas effectivement. Et les contradictions, effectivement, nous on les connaît, on a fait des reportages sur eux. Moi, je pense que c'est un combat évidemment majeur. Toute lutte est une contradiction. Toute lutte te met dans une contradiction. Dès que tu luttes, dès que tu t'engages dans quoi que ce soit, tu as quelqu'un pour te disqualifier. immédiatement, dès que tu t'engages dans quoi que ce soit, t'as quelqu'un pour te disqualifier en disant t'es un bobo, t'es un écolo, toi-même, tu t'habilles avec des machins, des marques, etc. Toute lutte rencontre immédiatement la disqualification de ceux qui ne luttent pas, qui ne s'engagent jamais, et qui essaient de saper immédiatement, de casser, de disqualifier la lutte elle-même, le lutteur lui-même, pour éviter de parler du fond. Le fond est très grave. Le fond est très grave, c'est des choix de société. La consommation est apparue après la Première Guerre mondiale. Le mot, on a trouvé, il est apparu dans les années 20 aux États-Unis. On avait des surplus de fabrication après la Première Guerre mondiale. Dans tous les domaines, il fallait écouler. Le capitalisme mondial ne pouvait continuer de fonctionner que si on consommait ces surplus, les surplus du fonctionnement capitaliste après la Première Guerre mondiale. Donc on a inventé ça. Il fallait absolument qu'on en fasse quelque chose. Donc on a inventé la consommation et on a inventé la propagande qui allait nécessairement... On disait propagande, hein, c'est le mot qu'on employait, qui allait avec pour qu'on achète ce qui se fabriquait dans les usines. Enfin, moi, c'est le sujet qui nous intéresse, qu'on a c'est traité. Mais là, il est vachement bien traité, en plus.
Voilà, vachement bien traité, hein, le prof l'a dit, donc c'est vachement bien traité. Voilà, vous avez compris, on est à Lille, on est avec les étudiants, on vient d'écouter ce reportage. Il y en a beaucoup d'autres, hélas, on ne pourra pas tous les passer, mais on va se finir cette série et cette semaine en guinchant.
On écoute Un dimanche au dancing d'Audrey Tison.
Et le meilleur dancing de Paris, c'est ici, le Chalet du Lac.
Ça nous apporte des connaissances, de l'amitié, de l'amour.
La danse fait partie intégrante de l'être humain, il y a toujours.
J'adore danser.
Moi, je les appelle mes papilles. Hein.
Nous, c'est vraiment le moteur de notre vie, quoi.
Alors Nicole, vous avez pris le métro pour venir au dancing?
Oui, tout à fait.
Alors expliquez-moi, vous mettez combien de temps pour vous préparer quand vous venez au dancing?
Deux heures.
Je mets plusieurs affaires en lieu, mais je vais mettre quoi? Alors j'essaie.
Et donc là, vous avez choisi quoi comme tenue? Expliquez-nous un petit peu.
Oh, tout simple. Et j'ai oublié mes chaussures. Je mets toujours des talons de manière à être correcte.
Donc avant de venir, il faut le temps de choisir sa tenue, se maquiller.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Comment je vais me coiffer? C'est tout un...
Parce que quand on vient au dancing, c'est aussi un peu pour plaire. En
fait. Bah oui. Si on veut danser, il faut être... Normalement, on danse.
Et quand vous venez, vous restez à peu près combien de temps alors?
Disons 4 heures. Mais il n'y a pas que ce bal-là. Il y a un autre bal République, rétro. Mais c'est pas la même convenance qu'ici.
Est-ce qu'on peut dire que le Chalet du Lac, c'est un peu le meilleur des dancings?
Ben écoutez, franchement, d'allure, oui. Hein, y a deux bois qu'on connaît, Mathilde.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cet après-midi?
Eh ben, danser.
S'amuser.
Passer un bon après-midi agréable, voilà.
Moi, je viens surtout pour oublier les soucis. Voilà. Ça fait du bien moralement, physiquement.
Parce que la maison, c'est bien, mais une fois qu'on parle au mur, ils ne nous répondent pas. Hein.
En fait, vous êtes célibataire toutes les deux maintenant?
Bah, moi, il est décédé, j'ai un copain à la maison quand même. Mais...
Moi, je vis seule.
Voilà. Vous êtes seule et donc le dancing, ça change les choses?
Ça me change un peu, ça m'apporte la compagnie.
Ah oui, il y a déjà la queue devant l'entrée.
Voyez-vous, c'est pas du cinéma, tout le monde vient. Allez, venez les copains. Plus on est de fous, plus on rit, mais c'est magnifique.
C'est vraiment en pleine nature.
N'est-ce pas?
Donc on va devoir faire la queue avant d'entrer. Alors, il est 4h de l'après-midi et l'ambiance bat son plein au Chalet du Lac. Le Chalet du Lac, c'est un dancing situé à l'orée du bois de Vincennes. Vraiment, ça bénéficie d'un cadre superbe. Il y a pas mal de monde là, actuellement, à peu près 300 personnes dans la salle. Et les couples dansent, tournoient sur des airs de valse, de tango et autres javanaises. La tranche d'âge, c'est à peu près de 40 ans à, je dirais, 70 ans. Mais il y a peut-être des personnes qui sont même un peu plus âgées. On va voir comment se déroule l'après-midi.
passer au standing.
C'est pas les boîtes de nuit des jeunes, hein.
Et vous venez tous les jours?
Non, je viens le dimanche et puis on défend en semaine. C'est mon dancing, c'est ma maison. Comme j'habite pas loin.
Et là, vous êtes assis, vous consommez un petit Perrier. Vous venez pas pour danser, vous?
Si, si, je sais danser. Et je connais les filles qui savent danser, parce que je suis très connu, là.
Alors, Julien, vous, c'est plus facile pour vous de trouver des partenaires?
Oh, c'est plus facile, parce qu'il y en a plus. Il y a des femmes pour danser, c'est tout. Et moi, je veux sortir, moi. Je veux des femmes qui viennent à la pêche avec moi.
Ah, vous cherchez pas seulement des danseuses?
Ah oui, oui, tout. Qui est avec moi dans le camping-car, tout, qui viennent se promener à Deauville, à Dieppe.
Vous cherchez une compagne, en fait?
Pas vraiment, mais une femme qui sort. Parce que là, ils sortent pas, ils viennent pour danser.
Vous, ça vous arrive de draguer?
Oh, je fais que ça, mais il n'y a rien.
Il n'y a rien au bout?
Ouais, ça te fait rire. Il n'y a que dalle, que chi. Ils viennent, oui. 6 mois après, c'est encore non.
Donc vous n'espérez plus?
Le monsieur, il est d'accord avec moi.
Alors, c'est quoi la tenue idéale du danseur?
Ah ben, comme je suis.
Vous, c'est le costume blanc avec des petites rayures, la chemise blanche, la cravate... le chic, quoi. Ouais, alors, si on allait danser maintenant, ça se fait d'inviter un homme?
Oui.
On y va?
Passez un passant d'homme.
C'est un marronnier, quoi. C'est le sujet classique, hein. On l'a fait des quantités de fois, enfin le coup du dancing. Très très bien, très très beau boulot. C'est dommage qu'on n'ait pas plus, peut-être, quand tu danses avec lui. C'est pas facile, hein, d'avoir le micro. Oui, mais c'est la meilleure réplique.
Garder la musique tout en parlant. Ouais.
Oui, mais sauf que là, c'est la fin, la chute. Là tu fais plus de commentaires, tu maîtrises complètement le micro, tu parles directement dans ton micro. La fin. Tu dis c'est difficile de quand on a un bon partenaire, etc. Là, c'est plus du comme. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qui sort de la situation elle-même. Tu maîtrises tout, là. Tu vois, tu t'oublies que tu as ton magnéto.
Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner parce que ouais. J'avais la main, le micro dans la main qui était posé sur son épaule, en fait. Ouais. Puisque, voilà, on dansait. Et donc, pas. Je ne savais pas si ça allait donner à l'arrivée. C'est pour ça que je n'ai pas trop osé parler non plus pendant la musique, quoi.
Là aussi, c'est dans tous vos reportages, reproche, pas assez précis sociologiquement. Toi, t'es croquis, c'est une suite de croquis. Hein. Là, c'est vraiment un travail de croquis, comme on dessine quelque chose. Pas tout à fait assez précis sociologiquement. Et il y a quand même les histoires d'amour, on aimerait en savoir plus, quoi.
Ah bah, je trouve que
parce que le gars... Non, il faudrait que ce soit un peu plus costaud, parce que quand même, ça baise. Hein. Ouais, quand même, ça baise. Alors, la pêche à la ligne et la caravane, il faudrait savoir un peu plus. Ça, c'est impeccable. Mais toi, c'est des bonheurs formidables de la... du reportage, quoi, parce que ça, c'est ininventable. Enfin, la plupart des répliques que tu as là, c'est ininventable. Ininventable. Voilà, là-bas, fait des petits, mais pas seulement avec les étudiants journalistes de Lille, mais avec tous ceux qui se lancent dans la radio, dans les radios associatives, de droite, de gauche. Si ça vous tente de nous envoyer un reportage sur une durée comme ça de 10-15 minutes, en stipulant bien là-bas, fait des petits, eh ben on écoutera ça attentivement et peut-être qu'un jour sera votre tour de vous entendre dans là-bas, si j'y suis. Merci à tous les étudiants de l'école de journalisme de Lille, Sarah, Ava, Laurie, Julie, Aurélie, Michel, Frédéric, Marie, Émilie, Tony, Alix, Audrey, Charlotte et Tiffaine. D'autre part, nous vous signalons que demain, samedi 16 février à 16h, le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis organise une rencontre débat autour du thème de l'État-providence vers l'État-pénitence, le traitement de la délinquance juvénile dans les banlieues françaises avec la participation de Laurent Bonelli. Vous vous souvenez, on l'a reçu il y a quelques jours, Laurent Bonelli, sur la France à peur, sur l'insécurité. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Aveline Carmois. C'est Koye Nguyen et Raphaël Moutéa qui ont réalisé cette émission, supervisée par Antoine Chao. Et c'est Charlotte Perry qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est, mais vous le savez, 01 56 40 37 37.